Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La crise des gilets jaunes continue, même si l'opinion publique donne des signes d'essoufflement et soutient moins qu'auparavant ce mouvement de révolte sociale et politique. Parmi les réalités qu'a montré cette crise, il y a celle de la situation des classes moyennes, parfois les plus malmenées. Une crise qui a eu également tendance à opposer ces dernières avec les plus pauvres. Des gilets jaunes qui, eux, travaillaient, n'étaient pas des assistés, a-t-on pu entendre. Qu'en est-il? Le déclassement des classes moyennes est-elle une réalité? Est-il une réalité, pardon? Que dire à propos de ceux qui vivent des minima sociaux? Cette émission pour essayer d'y voir un peu plus clair. Déclassement et pauvreté, le vrai du faux, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, il n'y a que des hommes, tiens, je m'en rends compte maintenant. Pourtant, la crise des gilets jaunes a vu aussi on a vu aussi de nombreuses femmes. Gervais Bauer, vous êtes couvreur à la retraite et père de 6 enfants. Vous nous venez du Comminges, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Rémi Petricciolo, vous êtes électricien, père de 4 enfants. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le premier, Gervais Bauer, c'est important de le dire, donc vous avez 66 ans. Et Rémi Petricciolo, vous avez 34 ans. Louis Morin est avec nous, directeur de l'Observatoire des inégalités. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Combre, plus connu de nos auditeurs, puisqu'il vient de temps en temps à cette antenne, volontaire Bonne Nouvelle Quart-Monde et responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par des témoignages. Ça n'est pas forcément coutume dans une émission qui souhaite être une émission de société, mais je me suis dit que c'était important et qu'en tout cas c'était ce qui nous avait été probablement reproché aussi à nous journalistes, sans se prendre pour des grands journalistes des médias nationaux, de ne pas assez donner la parole à ceux qui sont dans la vraie vie. On va commencer avec vous, Rémi Petricciolo,
oui.
Pour essayer de comprendre ce déclassement que vous avez vécu, vous. Alors vous, ça serait un déclassement de génération. On verra ça peut-être en forme de conclusion de votre histoire, puisque votre père est magistrat, il est peut-être
oui.
à la retraite.
Il est à la retraite.
Voilà.
Oui.
Et vous êtes donc d'une autre classe sociale. Si on devait essayer de résumer, donc je dis vous avez 34 ans, vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment vous choisissiez un autre métier? Vous aviez commencé par des études dans l'enseignement, me semble-t-il.
Oui, j'avais fait des études d'histoire, oui, tout à fait. Oui, j'ai eu un bac général scientifique, donc rien à voir avec l'histoire, ou de loin. Et ensuite, j'ai fait des études d'histoire parce que c'est ce qui me... Oui, c'est l'histoire qui me plaisait, la matière en soi. Et puis, c'est vrai qu'on sort souvent du lycée sans trop savoir quoi faire. Moi, j'étais pas très...
Pas très matheux, en l'occurrence
Non, matheux, non, certainement pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Et donc j'ai fait ce qui me plaisait, de l'histoire.
Vous avez tenté des concours aussi après, c'est
alors
ça?
Alors ensuite, voilà, c'est ça, j'ai tenté des... le CAPES, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
École de journalisme, a dit votre épouse.
Oui, j'ai tenté l'école de journalisme.
Vous voyez, j'ai mes informations. Hein. Et donc après, donc vous avez enseigné un petit peu, et puis...
Alors voilà, j'ai enseigné 2 ans comme vacataire. Alors c'était très sympa comme expérience. Notamment dans une école de production qui s'appelle Dynameca à Toulouse, qui est très sympathique aussi pour des jeunes en difficulté. C'était les CAP, Tourner Fraiseur. Donc un public difficile, mais très agréable.
Ça n'a pas suffi. Donc vous avez décidé de vous orienter vers un métier d'électricien.
Voilà, moi c'était toujours assez précaire, donc c'est toujours des remplacements, c'est pas durable. Donc ensuite j'ai fait une formation d'électricien parce que bon, ce qui me manquait aussi c'était quand même de faire des choses avec les mains. Moi ça me manquait beaucoup. Et voilà, j'ai fait une formation d'un an et ensuite au moment de quand je suis sorti de cette formation, c'était en 2008 à peu près.
Voilà, en pleine crise financière.
C'est ça, c'était après 2008, mais c'était du coup le moment où on ressentait de façon forte dans la société la crise.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous étiez? C'est-à-dire que vous êtes sorti d'école, vous aviez dans l'idée que vous alliez trouver peut-être facilement du travail et gagner correctement votre vie, c'est ça?
Non,
Pas du tout.
Ça, j'avais déjà déchanté.
D'accord.
Depuis longtemps. Non, par contre, disons que l'idéal quand on sort de formation comme ça, c'est de trouver une petite entreprise où on puisse toucher un peu à tout, notamment au niveau électricité, enfin au niveau de l'artisanat, c'est souvent ça, quoi. Où on puisse toucher à tout et se former et apprendre vite et surtout, vraiment être le plus polyvalent possible. Or là, le problème, c'est que toutes les petites entreprises étaient en grande difficulté. Il n'y avait que des grandes boîtes qui embauchaient. Le problème, c'est que quand on est embauché par une grande boîte, c'est quand même un peu du travail à la chaîne. Une équipe qui vient tirer les gaines, une autre qui vient tirer les fils, une autre qui vient mettre les appareillages. Et pour apprendre, c'est plus... C'est quand même moins... Voilà, moins
donc
moins
vous auriez pu être embauché donc dans une grande entreprise, mais vous avez fait le choix de vous installer en indépendant, c'est ça?
Oui, alors j'aurais pu, oui, mais en fait ça aurait été de l'intérim, hein, faut pas se leurrer non plus. Alors c'est payé bien, mais ça reste très précaire et voilà.
En tout cas, donc vous êtes installé dans le commun.
Du coup, je me
comme
suis installé
indépendant.
Voilà, on était plusieurs dans ma promotion de formation là, s'est installé directement parce que de toute façon, on n'avait pas forcément beaucoup d'autres choix. Et moi, je me suis installé dans le Comminges, qui est une zone économiquement en difficulté. Voilà.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quelle est votre situation professionnelle et du coup, la manière dont vous faites face à vos responsabilités de père de famille?
Alors oui, j'ai 4 enfants. Alors, j'ai retourné la question dans tous les sens. Et en gros, si je veux me sortir 1 500 € net... tous les mois, il faut que je fasse 5 000 € de chiffre d'affaires. Si je sors toutes mes charges, toutes les cotisations, diverses et variées, il faut que je fasse 5 000 € de chiffre d'affaires. Quand je fais 5 000 € de chiffre d'affaires, ça m'est arrivé quelques fois, c'est du travail non-stop sur un mois, c'est-à-dire...
C'est-à-dire 7 jours sur 7
6 jours sur 7 en comptant tout ce qui est facturation, devis, tout ça. Et c'est des grosses journées de 10 heures. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, l'éducation des enfants, c'est pas moi qui l'a fait. Donc je laisse ça à ma femme. Donc c'est pas possible. Ça, pour moi, c'était inenvisageable. Quoi. Et aussi du fait que faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois dans le Comminges, c'est compliqué parce que... oui, ça veut dire travailler encore plus parce que je ne peux pas augmenter les prix indéfiniment. Le Comminges est une région qui ne peut pas... avec beaucoup de difficultés. Moi, je ne suis pas non plus là pour assassiner les gens financièrement. Enfin, c'est même pas ma philosophie, quoi.
Donc aujourd'hui, comment vous faites? Est-ce que...
Et aujourd'hui, ce qui
est-ce que vous arrivez à vivre, en fait, sans aide?
Sans aide, ce n'est pas possible, non. Non, comme en fait beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile à admettre ou à avouer, entre guillemets, parce que ça serait un crime, d'avouer qu'on vit aussi avec des aides publiques. On y cotise hein, d'ailleurs, hein, mais on vit aussi avec ça.
Voilà, même si vous avez 4 enfants et que 4 enfants, c'est aussi une forme d'investissement de la société quelque part.
Tout à fait.
C'est aussi ça qu'elles servent les allocations familiales, ce qui ne sont pas des prestations sociales en l'occurrence.
Exactement.
Pour finir, vous voulez dire un mot de la manière dont vous le vivez. Vous vivez comme une forme de déclassement de génération par rapport à votre père. Vous n'avez pas le même niveau de vie, mais vous avez une manière particulière de l'apprendre. Dites-nous ça relativement rapidement pour qu'on puisse après donner la parole à Gervais Bauer.
Oh ben rapidement, c'est vrai que dès le début, quand les difficultés se sont imposées à moi et à d'autres personnes de ma génération, la solution c'est: est-ce que je me lamente ou est-ce que j'en profite pour me dire, bon, tant mieux, saisissons ça comme une opportunité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on essaye de s'accrocher à tout prix à un niveau de vie, finalement, on vit comme replié sur ce qu'on a peur de perdre. Alors que si on accepte simplement que de toute façon, les choses évoluent dans un certain sens, on peut se poser la question librement de savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait et vers quoi on avance et quelle vie on veut vivre. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit aussi pour nous, même, je dirais même d'un point de vue spirituel, ça nous dit quelque chose.
Voilà, une vie portée vers peut-être la décroissance, comme on l'entend parfois. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Alors Gervais Bauer, vous, c'est une autre génération. Vous pourriez être le père de Rémi. Vous avez donc 66 ans. Vous êtes couvreur à la retraite, père de 6 enfants. Donc vous avez commencé par exercer pendant de nombreuses années le métier de couvreur à votre compte. Oui. Ça marchait bien?
Ça marchait faisait pas fortune, mais enfin, disons qu'on pouvait en vivre décemment.
Voilà, ça veut dire que vous aviez combien d'enfants à charge à l'époque ?
Quatre et les deux bébés, puisque ma femme est décédée en 1994, alors que les dernières n'avaient que 4 ans et 2 ans.
En tout cas, quand vous étiez donc indépendant et que vous étiez couvreur, vous arriviez à faire vivre votre famille, en l'occurrence, sans les aides familiales et autres ?
Les allocations familiales, oui. C'est tout, quoi. Oui. Pas d'autre aide.
Oui. Donc, vous étiez dans le Comminges, hein, aussi, hein ?
Non.
Non ? Vous étiez à quel endroit ?
Dans le Nord,
mais c'est pas grave, on vous garde quand même. donc, en tout cas, vous étiez couvreur et vous étiez indépendant, vous aviez charge de famille. Votre épouse, donc, décède en 1994, et donc, vous faites un choix important, c'est que vous décidez de ne pas travailler pendant un an. Est-ce que vous nous expliquez ça ? Pourquoi vous avez fait ce choix et puis la manière dont ça s'est passé ?
Déjà, moi, pour me remettre... parce que j'étais très choqué, j'étais pas bien, quoi. Donc, en plus, le choix des deux dernières.
C'est-à-dire vous occuper de vos petites ?
Ben oui, ou soit les faire garder toute la journée, ou... C'était pas évident. Alors j'ai fait un choix, j'ai arrêté, j'ai pris une pause de 1 an, j'avais les moyens.
Elles avaient donc 2 et 4 ans, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça.
Vous disiez vous aviez les moyens parce que vous aviez un peu d'argent de côté ?
Voilà, tout à fait. Donc, je suis parti habiter au bord de la mer, au Tréport, pendant 1 an. Pour oublier, pour me refaire une santé et tout.
Donc en tout cas, à la fin de l'année, vous dites, maintenant...
Je repars
comme couvreur.
Voilà. Mais là, catastrophe...
Qu'est-ce que ça veut dire catastrophe ? Expliquez-nous. C'est-à-dire, vous avez cherché du travail, vous n'en avez pas trouvé ?
Voilà. À mon compte, rien à faire.
Parce que...
Les gens n'avaient plus confiance, j'avais perdu ma clientèle et tout.
C'est-à-dire, 1 an, ça suffit pour perdre sa clientèle quand on est couvreur ?
Et oui.
Même si les gens vous connaissaient et qu'ils savaient ce qui vous était arrivé. C'est...
Voilà. Très dur. Donc voilà, donc au bout de 2-3 ans, le maire de la commune, voyant que j'avais beaucoup de difficultés, m'a quand même proposé un contrat de 3 ans, mais à mi-temps. Donc ce qui m'a permis de continuer à élever mes deux filles, d'adapter mes horaires de travail et d'élever mes deux filles correctement. Après, bien sûr, rebelote, rechômage. Et là, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim, ce qui n'était pas le choix le meilleur, puisque intérim, c'est déplacement.
Pour la vie de famille, on imagine que c'est compliqué,
ben, voilà.
Surtout quand on n'a plus d'épouse à la maison.
Voilà.
Donc en tout cas, si on doit résumer la suite, pendant à peu près 20 ans, vous avez exercé une activité professionnelle, mais cette fois en pointillé.
Voilà.
Soit comme coureur, soit d'autres métiers. Et ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que, bon, certes, vous avez conscience que vous aviez fait un choix, on va dire, radical pendant 1 an.
Voilà.
Mais vous me disiez, bon, même à moi, à ma génération, à partir de 45 ans, 50 ans, retrouver du travail, c'était mission impossible.
Voilà. À part...
En tout cas, un CDI, c'est ça ? En tout cas, un CDI, du travail.
CDI. Oui, voilà. Un CDI, oui. Même un CDD, il faut passer par l'intérim. Et comme je vous disais, l'intérim, bon, c'est pareil, hein, c'est travailler 15 jours à droite, 1 mois de l'autre côté. Et j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans, l'intérim. Et j'avais un ami qui avait une entreprise de transport exceptionnel. Donc il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous ? Bon, c'était toujours pareil, hein, c'était les déplacements et tout, mais bon. J'avais quand même des grands-enfants qui pouvaient s'occuper de leur petite sœur.
Alors, ce qui est intéressant, je trouve aussi dans votre histoire, hein, pardon, non pas que le reste soit pas intéressant, mais c'est qu'on entend aussi souvent, et je pense que c'est une question qu'on pourra poser à nos autres invités, et entre autres à Louis Morin, qu'il y a beaucoup de postes non pourvus. En l'occurrence, on dit souvent dans le bâtiment, mais il faut préciser que souvent c'est des contrats très précaires. C'est-à-dire, vous, il y avait du travail, mais c'était très précaire.
Très précaire. Une semaine, 3 jours.
Alors, est-ce que vous considérez que vous avez vécu comme un déclassement ? Est-ce que c'est comme ça que vous présenteriez votre situation aujourd'hui ? Un déclassement de carrière ? C'est-à-dire que vous aviez une situation et puis ça a été plus compliqué après ?
Oui, c'est sûr, oui. Parce que j'étais quand même... j'avais quand même passé un CAP de couvreur, j'avais fait les compagnons du devoir Tour de France et tout, j'avais une belle qualification et d'un seul coup, je me suis retrouvé comme... un simple ouvrier, quoi.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Bauer, pardon, hein, je ne veux pas être indélicat, mais vous m'avez autorisé à en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites face au quotidien aujourd'hui et par exemple, comment vous faites pour vivre ? Vous êtes à la retraite, donc ?
Oui, avec une petite retraite, bien sûr, parce que c'est les dernières années qui comptent pour le calcul de la retraite. Donc, tous les jours au matin, quand je me lève, je fais une prière pour qu'il ne m'arrive rien à la journée, soit une panne de voiture ou quelque chose, un incident quelconque. Car, excusez-moi, quand j'ai tout payé, mes factures et tout, mon loyer, il ne me reste que 30 euros par semaine pour manger.
Voilà, 30 euros. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. En tout cas, merci d'avoir le courage d'en parler, parce qu'on imagine que ça ne doit pas être simple de partager ça, même si probablement que beaucoup d'auditeurs doivent se retrouver dans ce que vous dites. Je propose qu'on fasse une première pause et puis on va mettre en perspective ces témoignages en essayant, entre autres avec Louis Morin, de faire un point général sur les grandes questions. Alors c'est vrai que les chiffres peuvent parfois blesser parce que on sort les grandes moyennes et ça ne parle pas toujours de toutes les réalités personnelles. J'imagine que Louis Morin aura toute la délicatesse nécessaire. On fait une pause et on vous retrouve.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Déclassement et pauvreté, le vrai du faux, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Gervais Bauer, qui est couvreur à la retraite, père de 6 enfants, Rémi Petricciolo, électricien, père de 4 enfants. Tous deux nous viennent du Comminges, donc en Haute-Garonne, au sud-ouest de la Haute-Garonne. Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, et Sébastien Combre, volontaire Bonne Nouvelle Carmonde, responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Louis Morin, vous êtes donc directeur de l'Observatoire des inégalités. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer pour commencer ce qu'est l'Observatoire des inégalités que vous avez, je crois, créé. Allô, Louis Morin ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon, allez.
Allô, oui. Donc c'est une association indépendante qui a été créée en 2003 à Tours. et dont l'objectif est de réaliser un état des lieux des inégalités et de produire des analyses sur la question pour les comprendre, à la fois pour dire que parfois ça se dégrade, mais à la fois pour dire que parfois ça s'améliore. Voilà, on essaye d'alimenter un débat qu'on souhaite le plus informé sur le sujet possible, et très régulièrement on publie un état des lieux, un rapport sur les inégalités ou la question de la pauvreté, par exemple.
Alors, je le disais, à la faveur de la crise des Gilets jaunes, il y a une réalité qui est ressortie dans l'actualité. C'est peut-être pour ça, entre autres, qu'un certain nombre ont mis un gilet jaune. C'est que les classes moyennes seraient parmi celles qui seraient les plus touchées, en fait, par les réalités économiques actuelles, en tout cas celles dont on parlerait moins. Est-ce que vous pouvez nous parler du déclassement des classes moyennes ? Est-ce qu'il y a un déclassement des classes moyennes ? Je commencerai juste par donner un chiffre, pardon. J'ai trouvé ce chiffre, on va dire un couple avec deux enfants, classe moyenne aujourd'hui en France, c'est un revenu donc cumulé entre 3122 euros bruts et 5767, donc c'est une grande fourchette.
Alors, d'abord, oui, tout à fait, il faut s'entendre, quand on parle de classe moyenne, il faut s'entendre sur de qui on parle. Très, très souvent, les médias nous offrent une représentation très tronquée de la réalité des revenus. Et pour cela, donc, nous on a fait tout un travail pour essayer d'estimer les niveaux de vie. Il faut notamment tenir compte de la forme de la famille. Souvent, on mélange des revenus pour une personne seule, une famille. Vous voyez, allègrement, on change. Donc nous, on va estimer, par exemple, avec nos données, que pour un couple sans enfant, les revenus des classes moyennes, c'est entre 2500 euros et 4400 de revenus bruts, de revenus nets après impôts et prestations sociales. Et pour une personne seule, ça irait de, disons, 1300 à 2300 euros pour une personne seule.
Donc voilà, vous parlez en net. Vous parlez en net. Alors,
en net après impôts et prestations sociales.
D'accord.
On est très loin de la vision idéalisée des classes moyennes qu'on a parfois, avec des gens qui touchent 4 ou 5000 euros. Hein. Je rappelle quand même pour vos auditeurs que aujourd'hui le niveau de vie qu'on dit médian. Médian, ça veut dire la moitié de la population gagne plus et la moitié de la population gagne moins. Vous voyez, c'est le revenu qui sépare en deux les Français. C'est 1700 euros net pour une personne seule. Vous voyez, c'est là, c'est autour de ce niveau de vie-là que se trouvent les classes moyennes. C'est pas à 4000 ou 5000 euros, vous voyez, on le dit quand même trop souvent.
Alors ça, c'est la précision, donc sur les fourchettes. Mais est-ce qu'il y a un déclassement des classes moyennes ?
Il y a deux choses dans votre question. Vous avez dit deux choses. La première, c'est est-ce qu'elles sont le plus touchées ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on en parle le moins ? Est-ce qu'elles sont le plus touchées ? Il faut vraiment dire et répéter que c'est faux. C'est-à-dire les classes les plus touchées sont les plus pauvres. Hein, sont les gens qui vivent avec 400, 500, 600 euros par mois, sont les populations les moins qualifiées, qu'ils soient salariés, on a vu tout à l'heure, hein, l'exemple dans l'artisanat, ou ça peut être aussi dans le commerce, un certain nombre de métiers où on peut avoir parfois de grandes difficultés à joindre les deux bouts, même quand on travaille, c'est-à-dire même quand on a un emploi. Donc,
excusez-moi,
la crise sont les populations les plus pauvres.
Voilà, c'est ça. Alors, parce que quand vous dites les plus touchés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceux qui prennent de plus le plein fouet,
voilà,
la crise actuelle.
La
c'est
crise,
ça
l'effet du chômage et les difficultés d'insertion professionnelle. On parle beaucoup de déclassement, on parle beaucoup plus rarement du non-classement de ces personnes qui ne sont pas déclassées parce que tout simplement elles sont jamais réussi à intégrer réellement un marché de l'emploi avec des revenus satisfaisants. En revanche, à la deuxième partie de la question, est-ce que ce sont celles dont on parle le moins ? Là, la réponse est plus nuancée. C'est vrai que nous, depuis très très longtemps, à l'Observatoire des inégalités, on attire l'attention sur le fait qu'il y a une partie de la population qui n'est pas la plus précaire, qui n'est pas la population la plus en difficulté sociale, peut-être qui continue à avoir un certain standard de vie, mais qui connaît de réelles difficultés et qui pas souvent mises en avant dans le débat public, dont on parle peu, parce que souvent, justement, on la confond avec des classes moyennes, l'imagerie traditionnelle du couple avec biactif qui vit dans son beau pavillon, avec son monospace, et puis avec ses deux voitures et ses deux enfants, et l'image un peu publicitaire donc, des classes moyennes, c'est pas toujours la réalité. Enfin, il faut dire que ces classes sociales moyennes voient d'un côté des politiques publiques qui se concentrent, et c'est normal de soutenir les plus démunis ou les familles pour que personne ne vive à la rue, mais qui d'un autre côté, à l'autre côté des revenus, leur proposent beaucoup de réductions d'impôts et se disent, ben moi je suis un peu entre guillemets le dindon de la farce, hein, d'un côté on aide les plus pauvres et d'autre côté on aide les plus riches. Et moi, qu'est-ce qu'il me revient ? Et du coup, même s'ils sont pas forcément les catégories, faut pas en faire une caricature, qui sont à l'abandon. Vous voyez, parfois, on a parlé de la pauvre France périphérique. On a l'impression que les classes moyennes disparaissent. C'est faux. Mais, en revanche, c'est vrai qu'au milieu des revenus, ben, il y a une catégorie de la population qui peut avoir le sentiment de être finalement pas prise en considération.
Voilà, en dehors des radars,
en tout cas. Des radars, des clous du politique.
Alors,
et cette population, voilà.
Louis Morin, voilà. Juste, si maintenant on doit analyser les causes dans les quelques documents que vous m'avez envoyés, dont certains sont des articles qui ont été publiés dans l'Alternative économique, donc on a bien compris que les premiers, on va dire, à souffrir d'une forme de déclassement, même si le mot est peut-être pas en l'occurrence le bon, puisque vous dites que il y a jamais eu en quelque sorte de classement, ce ne sont pas forcément les classes moyennes. Les classes moyennes, à vous entendre, sont quand même en partie impactées. J'ai relevé ces chiffres. Vous disiez que dans un article, je crois, d'Alternative économique, que les générations 40, des années 40 et 50 ont commencé à travailler au beau milieu des 30 glorieuses. Pardon, certains connaissent ces chiffres par cœur, hein, mais en 1975, le taux de chômage des 15-24 ans était de 5%, et 35 ans plus tard, il approche de 25%. Est-ce que la première cause, pardon, ça peut paraître bateau, hein, mais la première cause de ces changements de niveau de vie, c'est tout simplement la crise économique qui n'en finit pas de durer.
Alors, absolument. Alors, premièrement, il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le déclassement existe, il est réel, il est important. Il ne faut pas disons, oublier ceux qui ne sont pas classés, mais il y a une partie des personnes qui sont effectivement déclassées. L'INSEE a publié hier des données sur le sujet pour les jeunes par rapport à leurs pères. Hein, si on regarde les mobilités qui vont vers le haut ou vers le bas, il y en a deux fois plus, quasiment deux fois plus qui vont vers le haut que vers le bas, 27% vers le haut et 15% vers le bas, mais il y a du déclassement et davantage que dans les années 70, où on était plutôt aux alentours de 7%. Donc, voilà, il faut ne pas oublier en particulier ces jeunes qui ne sont jamais classés, mais il y a aussi du déclassement. Et puis après, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que à force de vivre dans le chômage, on est un peu comme Obélix et sa potion magique à l'inverse. C'est-à-dire que on oublie,
on s'y habitue.
Finalement, c'est comme si voilà, on était dans un bain baigné depuis des décennies de chômage et on oublie l'impact du chômage. Mais vous avez absolument raison. Le facteur majeur, et nous, on ne cesse de le répéter, c'est ce chômage qui gangrène, ce manque d'activité qui gangrène finalement la société et qui fait que ben une partie des personnes finalement avec un certain niveau de diplôme n'accède pas à la position sociale qui correspond à ce niveau de diplôme.
Correspond tout simplement, hein, à un niveau de diplôme. Oui.
Alors voilà. Alors on peut juger que ben c'est artificiel finalement. Il faut en rabattre un peu sur ces exigences. Hein. Vous avez un BTS, ben tant pis, vous allez gagner moins que ce que vous croyez. Vous allez faire tel ou tel métier. Mais enfin, peu importe. Pour ces personnes, il y a une aspiration à faire des études et puis à avoir une certaine place dans le classement, eh ben, elle se retrouve dans la file d'attente. Et ça, c'est quelque chose de bien réel. Je vais vous donner
un chiffre,
mais si on prend les bac ou plus, les gens qui ont au moins le bac, hein, et on regarde ce qu'ils deviennent 11 ans après la sortie de l'école. Donc on regarde quand même le temps long, on voit ce qu'ils deviennent. Dans les années 80, il y en avait 5%, aux alentours de 5%, qui étaient ouvriers ou employés non qualifiés. Au milieu des années 2010, on est passé à quasiment 25%, disons 23%.
Donc fois 5.
Vous voyez, fois 5, quasiment fois 5, disons fois 4,5. Donc vous voyez que là, bah, pour le coup, il y a bien quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a bien eu du déclassement. Alors on peut dire à ces jeunes, oh, ben maintenant le bac vaut moins, donc vous allez qu'à en rabattre sur vos exigences, mais n'empêche que pour eux, on comprend aussi ce sentiment. Vous voyez, il y a ceux qui ne sont jamais classés, et puis il y a ces jeunes qui rêvaient peut-être, qui avaient cet espoir d'avoir une certaine position sociale.
Et qui s'étaient donné du mal pour ça, probablement.
Voilà, exactement. Beaucoup de mal par rapport à la jeunesse française. Il y a énormément d'exagérations par rapport aux efforts qui sont faits par rapport à cette jeunesse.
Louis Morin, j'aimerais qu'on revienne après sur les autres causes, mais je vais demander à mes autres invités, parce qu'on en parlait avant de commencer cette émission, Rémi peut-être et Sébastien. Rémi Petricciolo, vous expliquez qu'à votre génération, ce qu'on vous a dit tout au long de votre scolarité, c'est il faut avoir un bon diplôme parce que ça donnera un métier correct. En gros, vous aviez été élevé dans ce mantra. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça?
Effectivement, mantra est le mot juste, je crois. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai 34 ans et c'est vrai qu'on a grandi avec... j'ai beaucoup entendu à l'école, au collège, au lycée, cette assertion plus ou moins réelle finalement, qu'il faut faire beaucoup d'études et avoir des diplômes parce que sinon c'est le chômage assuré. Et c'est-à-dire... les études et le diplôme étaient même la panacée contre le chômage. C'est-à-dire, si on a fait des études et qu'on a un diplôme...
On était protégé.
On est protégé. Plus il est haut, mieux c'est. C'est-à-dire, faites une série générale. Si vous faites une série générale, faites S parce que ça garantit plus de possibilités.
Et sinon, visez le bac plus 5. C'est...
Voilà, et visez le bac plus 5 si possible.
Sébastien, vous disiez qu'aujourd'hui, les jeunes générations, quand on prépare l'émission, ne réfléchissent plus pour une partie comme ça. Est-ce que vous pouvez expliquer
ça ?
Oui,
c'est surtout les très pauvres, en fait, finalement, enfin, qui on voit par expérience que finalement, les diplômes, ça mène à rien. Et parce que leurs parents ou leurs grands frères ont passé des diplômes, sont allés à l'école et finalement n'ont pas pu percer dans la vie. Et aujourd'hui, on observe vraiment l'inverse, finalement. Des jeunes qui se disent, ben, l'école, les diplômes, ça sert à rien.
Alors Louis Morin, sur ce point, vous en parlez, en tout cas dans les documents que vous m'aviez donnés, et vous, sauf si je vous ai lu trop rapidement, vous aviez l'air de dire que globalement, le diplôme, c'est ce qui continue quand même, on va dire, de protéger du chômage.
Ah oui, et surtout en France, hein, le diplôme, c'est l'argument majeur dans un pays où on a une croyance dans le titre scolaire, mais ce qui n'empêche que... Ce que monsieur a dit est vrai, c'est-à-dire que à la fois c'est vrai, à la fois compte tenu de la situation, peut-être aussi on pourrait s'interroger de la dramatisation de certains par rapport à certains discours sur la pauvreté et le chômage. Bah, une partie des jeunes, il faut les comprendre, se disent bah, pff, à quoi bon, à quoi ça sert.
Il faut les comprendre. Vous avez des chiffres à citer là-dessus ou pas? Il y a des...
Non, mais qu'une partie des jeunes...
C'est ce que vous donniez tout à l'heure, d'ailleurs.
Le chômage de jeunes, par rapport au détachement que je donnais tout à l'heure, mais dans certains quartiers, et je ne parle pas des départements d'outre-mer, où là, la situation est gravissime. C'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on vit dans des quartiers où le taux de chômage pour les jeunes actifs est de l'ordre de 60 à 70%, qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas une forme de... On peut leur dire... Le diplôme, tu peux t'en sortir avec le diplôme, mais quand on voit que le grand frère, il met des années et des années avant avoir le moindre emploi, on se dit, on comprend. C'est-à-dire, on peut à la fois se dire, c'est important d'avoir les diplômes et c'est important de se former, d'avoir les bonnes formations, mais on peut aussi comprendre le fait que toute une partie de la jeunesse populaire, notamment, se dise, c'est pas pour moi, c'est diplôme, et de toute façon, j'y arriverai pas. Et puis au fond, ça sert à rien parce que je vois l'exemple de mes... Enfin, maintenant, c'est même plus le grand frère, hein, c'est aussi le père, hein, puisque faut rappeler quand même que ce chômage, il monte dans la société française à partir des années 70. Donc voilà, on voit l'image de grandes difficultés.
Louis Morin, je vois le temps qui passe et j'avais quand même encore deux, trois questions. Une importante, dans ce que j'ai lu aussi à ce sujet, l'ascenseur social, dites-vous, contrairement aux idées reçues, n'est pas en panne, même si il ralentit. Donc j'entends, je lisais là-dedans deux choses. La première, c'est un sentiment d'une France à deux vitesses. Voilà, l'ascenseur social continue à marcher, il y a de plus en plus de cadres, d'emplois cadres, etc. Donc il y en a pour qui, on va dire, ils continuent de grimper et tout va bien pour eux. Et en même temps, vous dites que voilà, il ralentit, mais il ralentit peut-être pour certains. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce fameux ascenseur social et sur l'injustice quelque part qu'il peut représenter aujourd'hui?
Oui, alors je crois qu'on dit beaucoup de bêtises sur ce là-dessus et une certaine forme de dramatisation. Alimente ce sentiment de à quoi bon faire des études ou m'investir pour un métier puisque il faut faire la part des choses. L'ascenseur social, la France est un pays riche qui continue à créer des emplois, qualifiés, et il y a toujours des formes d'ascenseur social. L'INSEE l'a répété dans une étude d'hier, les deux tiers des enfants des enfants, si on regarde la situation des fils, ne sont pas dans la même catégorie sociale que leur père. Donc il faut quand même dire que ça continue à bouger. Simplement, on est dans un système où ça bouge de plus en plus vite, il y a de plus en plus de montées et il y a de plus en plus de descentes. C'est-à-dire que ça tombe, ça monte et ça tombe. Et donc, vous voyez, on est dans un système globalement plus mobile et donc il y a plus de gens qui montent, mais il y a aussi plus de gens pour qui les situations sont les plus difficiles et on le ressent. Enfin,
pour qui est-ce le plus difficile, parce que c'est souvent ce qu'on dit qu'il est bloqué pour certains.
La question, c'est que on est un pays où on a une croyance démesurée dans la valeur du diplôme et notamment les savoirs théoriques, la place des mathématiques en particulier, et ceux qui montent le plus, c'est ceux qui sont les enfants des parents qui ont les mêmes titres scolaires. Alors, on ne va pas non plus faire de caricature sur le système scolaire français comme on le fait aussi souvent, mais on le sait, c'est un système qui favorise les plus favorisés. Et du coup, l'ascenseur social, il marche, mais il marche surtout bien pour ceux dont les parents détiennent le code pour rentrer et dans cet ascenseur et appuyer au bon étage. Vous voyez, dans certains ascenseurs, il y en a qui ont une clé pour aller à l'étage supérieur qui est ouvert par personne, et ça c'est aussi une forme de réalité, c'est-à-dire que parmi ces montées, ne caricaturons pas, il y a toujours des jeunes de milieux modestes qui montent dans la hiérarchie sociale, mais massivement, on favorise les plus favorisés.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Vous aurez peut-être l'occasion encore de réintervenir. J'aimerais qu'on finisse cette émission. Enfin, on va finir cette émission avec quelques idées fausses autour de la pauvreté, puisque c'est une des choses aussi qu'on a entendues à la faveur de cette crise sociale et politique des Gilets jaunes. Caricature sur les personnes pauvres. Charge à Sébastien Combre à partir d'un ouvrage publié aux éditions de l'Atelier. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, de répondre à ces quelques clichés.
Thank you. Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Déclassement et pauvreté, le vrai du faux, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, émission peut-être un peu studieuse pour certains, mais de temps en temps, ça fait du bien d'essayer d'y voir clair, en tout cas de commencer d'y voir clair sur des sujets dont on entend largement parler, mais où on n'a pas toujours des choses très précises. Autour du plateau, Gervais Bauer, couvreur à la retraite, père de 6 enfants, Rémi Petré Ciolo, électricien, père de 4 enfants, Louis Morin était avec nous et nous a quitté, directeur de l'Observatoire des inégalités, et Sébastien Combre, donc, entre autres, responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Alors Sébastien, charge à vous, et c'est vous qui me l'avez suggéré dans cette dernière partie, de répondre à quelques slogans qu'on a pu entendre, entre autres à la faveur de cette crise, pas forcément de la part que des gilets jaunes ou de certains gilets jaunes, il faut préciser, mais voilà, des idées sur les plus pauvres des Français et tendance parfois à monter les uns contre les autres. Le premier, c'est on touche plus avec les allocations qu'avec le SMIC. Ça, on l'entend, on le lit. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre ?
Voilà, bon, alors, il suffit d'aller regarder les chiffres. Il y a la MIR, la mission régionale d'information sur l'exclusion, qui publie des chiffres assez clairs sur ça. Donc, comme disait M. Morin, ça dépend des configurations familiales. Mais aujourd'hui, on est à 976 euros pour une personne seule. Avec le RSA et l'APL, donc bien en dessous du seuil de pauvreté, évidemment, qu'il donne droit à la CMU, aux tarifs sociaux, etc. Et si cette personne gagne un SMIC à 1100 euros, ben, son revenu passe à 1463.
Donc, redonnez-nous les deux chiffres, juste pour qu'on les
976, 1463. Donc il y a une augmentation certaine, et puis pour un couple avec deux enfants, on passe de 1354 à 1922. 1922 quand même, je tiens à le préciser, c'est en dessous du seuil de pauvreté.
Mais alors là, il faut que vous donniez les deux chiffres, c'est-à-dire il faut que vous donniez aussi pour ceux qui sont au minima sociaux, puisque
je l'ai dit, c'est donc 1354, une famille avec deux enfants qui sont au minimum sociaux, c'est-à-dire l'APL, le RSA.
D'accord, et la comparaison pour ceux qui sont au SMIC est...
1922. Donc il y a une augmentation certaine, hein, mais toujours au-dessus du seuil de pauvreté. D'ailleurs, ce qu'on peut observer, je ne vais pas le prouver avec des chiffres, il faudra regarder, mais plus on a d'enfants, plus on se rapproche de ce seuil de pauvreté qui détruit une deuxième idée que plus on fait des enfants, plus on touche les allocations et plus on s'enrichit.
Alors, parce que dans les chiffres que vous citez, c'est allocation familiale compris.
Oui, c'est tout compris, allocation familiale comprise, APL compris, c'est tout compris. Alors évidemment, il se pose la question des charges liées au travail, comme la voiture, et puis des prestations qu'on n'a pas quand on a un SMIC, qu'on a quand
voiture,
on travaille.
Faire garder les enfants aussi.
Le mode de garde, effectivement, mais là je parle d'un couple avec un couple avec deux enfants, avec un seul salaire, donc là, a priori l'un des deux autres garde la famille, les enfants, mais il y a des prestations comme la cantine, etc., qui sont données au RSA, aux personnes qui ont le RSA et pas aux personnes qui ont un salaire, mais tout cumulé, on observe quand même une augmentation du...
Une grande, c'est quoi? C'est quelques centaines d'euros.
Oui, voilà, c'est ça. Mais sur un salaire de 1900 euros, quelques centaines d'euros, ça compte. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte, de se demander, c'est pourquoi ces idées sont véhiculées, pourquoi elles sont persistantes. C'est parce qu'une personne qui gagne le SMIC, elle galère. Elle galère, elle est en dessous du seuil de pauvreté, et c'est difficile pour elle. Et pour le coup, quand elle observe autour d'elle, elle voit des personnes qui galèrent pas, et elle se dit pourquoi moi je galère, et l'idée s'entretient. Et puis les personnes qui sont au RSA, je crois qu'on peut pas comprendre la misère.
Si on s'arrête sur les premières, est-ce qu'elles ont pas aussi l'impression que leur niveau de vie n'est pas fondamentalement très différent des personnes qui sont qui vivent avec les minima sociaux? Parce voilà. Que quelques centaines d'euros, ça se voit pas au quotidien quelque part, non? C'est...
Ah, je crois que si on est... Si. Moi, autour de moi, il y a les gens qui hochent la tête, là, de ceux qui ont intervenu ce matin, tout à l'heure. Non, ça se voit quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros, quand on a 1900 euros, 100 euros, 200 euros, c'est beaucoup. Parce que ça permet d'améliorer, ça permet de respirer surtout, hein. Ça permet de se dire on va pouvoir moins regarder, moins être stressé, parce que la lutte contre la galère c'est un temps plein, parce que ça occupe tout le champ de l'esprit et à la fois de nos actions, quand il faut aller chercher des colis alimentaires, qu'il faut aller demander des aides, et puis tout le champ de notre esprit. Voilà. C'est pour ça que parfois il faut s'évader, et que la télévision et malheureusement parfois l'alcool est un échappatoire pour parce toutes ces idées qui trottent dans nos têtes et qui nous empêchent d'avancer.
Finalement. Et du côté donc des personnes qui vivent aux minima sociaux, vous dites qu'il y a aussi un ressort, c'est que.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on peut pas comprendre la misère si on comprend pas la honte finalement qu'elle engendre elle-même, parce que notre société fait croire aux personnes qui vivent la galère qu'elles sont coupables, et finalement elles ont honte. Et pour le coup, certaines personnes vont dire qu'elles ont calculé et qu'elles préfèrent toucher le SMIC, toucher le RSA, que de travailler, ce qui leur permet en fait de garder une certaine fierté, parce qu'ils ont une emprise sur leur vie. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, et j'ai vu autour de moi des gens qui cherchent pas de travail, mais on leur propose un travail, on leur trouve un travail, et ils travaillent immédiatement, quoi.
Deuxième idée reçue, donc les pauvres ne veulent pas travailler, justement, quand on cherche un travail, on en trouve. On a même entendu dans la bouche du président de la République, presque, Dieu sait si ça a été...
Je ne rentrerai pas dans cette polémique, mais oui. Alors, ce qui se passe...
Quand même.
Oui, et puis malheureusement, cette idée est...
Vrai ou faux ?
Non, c'est faux. Les personnes qui ne veulent pas travailler, c'est difficile de trouver du travail aujourd'hui. C'est difficile de trouver du travail aujourd'hui. Les choses sont complexes. Les modes de garde dont vous parliez, c'est une vraie difficulté. Le transport aussi. Alors quand on est en rural, c'est encore plus fort. La formation, le regard des autres, quand on va travailler, qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps, le regard des autres est compliqué. J'aimerais citer...
Vous avez des chiffres ou pas ? Sinon, je vais vous aider, je vais en citer deux. Ouais. C'est donc sur le site justement d'ATD Quart-Monde, le rapport d'un organisme, alors ONPES, pardon, je n'ai pas vérifié ce que c'était, qui est en 2013, qui montre que plus des deux tiers des personnes en situation de pauvreté sont en emploi ou en recherche d'emploi. Et puis la Direction Générale du Trésor, en 2009, montre que la valeur accordée au travail, l'espoir placé en des gains ultérieurs et la volonté de s'assurer un meilleur avenir conduisent la plupart des bénéficiaires à accepter un emploi, même si le gain financier n'est pas immédiat.
Tout à fait. Ce qui d'ailleurs amplifie la perception de l'idée reçue qu'on a évoquée tout avant sur les pots avec le RSA et le RMI. C'est-à-dire que les calculs dont je vous ai donné, c'était sur un temps plein. Et que sur un temps partiel, il y a dégradation. C'est-à-dire que quand on passe du RSA à un SMIC à temps partiel, il y a dégradation des revenus. Ce qui fait que, pour le coup, c'est mal compris parfois, et certains se disent, je travaille et je gagne moins.
Ça veut dire que l'écart est encore moins important.
C'est-à-dire qu'il y a même dégradation des ressources. C'est-à-dire que là, pour le coup, les transports ne compensent plus l'augmentation de salaire.
Dernière idée fausse, on n'aura pas le temps donc de parler des quatre. Les pauvres sont des fraudeurs. Que répond cet ouvrage, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, publié par ATD Quart-Monde aux éditions de l'Atelier ?
Bah alors, c'est assez radical. C'est vraiment faux. Parce que, alors évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fraudes, hein, des fraudes aux prestations familiales. Par exemple, les fraudes aux prestations familiales représentent 698 millions. Ça paraît beaucoup, mais c'est 1,2% des prestations reversées. Hein.
C'est des chiffres de quelle année vous avez ou pas, non ?
C'est 2016, il me semble.
D'accord.
Ça, hein. C'est des chiffres qui viennent de la lutte contre les fraudes, la délégation nationale de la lutte contre les fraudes de 2013.
Et alors les comparaisons, surtout, ils donnent des comparaisons, c'est ça qui est intéressant.
Ben là, c'est-à-dire que la fraude fiscale, par exemple, c'est 2,485 milliards d'euros en 2011. Ce qui fait qu'on est
dans des proportions,
on est dans des proportions qui sont complètement disproportionnées. Hein. La fraude sur l'impôt sur le revenu est de 30%, de 30 à 38%, alors que la fraude sur les prestations familiales type CAF, 1,2%. Et après, ce que je retrouve...
On aurait pu ajouter l'impôt sur les sociétés, j'ai vu, c'est entre 40 et 55% de fraude.
Tout à l'heure, et les fraudes sur la TVA, 8%, c'est 130 milliards d'euros. Ça ne concerne pas les très pauvres.
Donc faux, la réponse.
Donc c'est carrément faux. Mais alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que même s'il y a 600 millions d'euros qui sont fraudés, moi, je vais le dire un peu provocateur, il y a la fraude de l'État sur les non-recours. C'est-à-dire que il y a des prestations comme le RSA, l'ACS, l'aide complémentaire santé, la CMU, des personnes qui ont droit et qui font pas ces démarches-là. On l'a vu d'ailleurs sur la prime d'activité, une recrudescence des demandeurs de la prime d'activité. Ça représente 7 milliards d'euros. Donc 11 milliards d'euros. Donc si on fait la différence entre la fraude et le non-recours, l'État gagne encore 7 milliards d'euros sur le dos des pauvres.
Voilà, c'est des chiffres à retrouver donc dans cet ouvrage dont vous allez nous redonner le titre. Si, en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, paru aux éditions de l'Atelier, publié par ATD Quart-Monde. Ça vaut le coup de lire et de le relire. Je vais donner juste un chiffre parce que c'est aussi quelque chose, quoi qu'on en pense, ça permet de remettre un peu les idées en place. L'aide médicale d'État, qui est parfois très critiquée ou décriée, les montants détectés des fraudes, c'est parfois décrié juste sur le principe, hein, mais en tout cas la fraude, c'est 0,14 millions d'euros. C'est sûr que par rapport à la fraude fiscale, plus de 3 milliards d'euros, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Merci beaucoup d'être venu pour cette émission et merci de votre courage surtout aux uns et aux autres d'être venu de parler de tout ça, et ça donnera lieu probablement à d'autres émissions. Quel monde aussi veut-on construire à partir de toutes ces réalités. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.